Ça, c'est justement dans 2 Timothée 3,16. Et puis aussi parce que cette lettre, cette deuxième lettre de Paul à Timothée, est écrite par Paul à la fin de sa vie. Il est à Rome, c'est son deuxième emprisonnement, et il n'en sortira pas cette fois, il va mourir en prison. Et donc cette lettre a des allures de testament. Et quand on lit un testament, on s'attache aux paroles de ce testament, les héritiers qui sont chez le notaire ne me contrediront pas, les paroles d'un testament sont importantes. Et je crois qu'on pourra tirer des belles choses de cette série. Alors aujourd'hui, on ne va pas aller très loin parce que je voudrais laisser la parole à Mouna et Charles. Cette fois, je ne me suis pas trompé. La semaine dernière, je l'avais appelé Manu. Donc c'est Mouna et Charles. Et aussi du temps pour la Sainte Cène. Je ferai donc une sorte d'introduction et je vais même aller un petit peu plus vite que ce que j'ai prévu. Donc s'il manque des liens, ne m'en voulez pas, mais il me semble que je ne dois pas trop tarder. Voilà la 2 Timothée 1, 1 à 5. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, et Stéphanie nous en a bien parlé, salut Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes, ça c'est quand Paul a quitté Éphèse où était Timothée, et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi et j'en suis pleinement convaincu. Alors, comme introduction, j'aimerais juste dire quelques mots sur les deux individus en présence dans les salutations, Paul et Timothée. Paul qui salue Timothée, Paul qui écrit à Timothée. D'abord, l'apôtre Paul, en 3 points. Alors, l'apôtre Paul... Ceux qui lisent la Bible le connaissent bien, ceux qui la lisent moins le connaissent moins bien, mais c'est un implanteur d'église, c'est quelqu'un qui est parti en mission, c'est quelqu'un de très important dans le Nouveau Testament. Et ce qu'on peut dire de lui, le premier point, c'est, je voudrais rappeler sa conversion radicale sur le chemin de Damas. En acte 9, il part vers Damas, de Jérusalem vers Damas, avec des lettres de recommandation, pour aller dans les synagogues et arrêter ceux qui vont dans cette secte qu'on appelle à l'époque la voie, ceux qui sont chrétiens. Et il est sur le chemin et là il voit une grande lumière qui le surprend, il part en la renverse et il me dit « Saul, la voix lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul ne comprend pas très bien, il dit « Mais qui es-tu Seigneur ?» Et la voix lui répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et moi, si j'avais été Paul ou Saul, je lui aurais répondu, « Mais je ne te persécute pas, Jésus. Je persécute seulement les chrétiens ou ceux qui s'appellent, qu'on appelle ton Église. » Mais Saul ne répond pas ça. Il comprend qu'il y a un lien entre Jésus et les chrétiens, Jésus et son Église. Un lien étroit. Et persécuter l'Église de Christ, c'est persécuter Christ lui-même. On se souvient de la campagne « Touche pas à mon pote ». Et là, c'est comme Jésus disait « Touche pas à mon Église », parce que c'est la prunelle de mes yeux. Et Paul, Saul, le comprend bien, et il se convertit là. Il va continuer à Damas, et là il va se faire baptiser par Ananias, et de persécuteur, il va devenir missionnaire, et il annonce la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ dans tout le bassin méditerranéen, et quand il va se trouver devant les tribunaux, qu'ils soient juifs ou romains, il va toujours se référer à cette expérience sur le chemin de Damas, ça a été le tournant de sa vie, une conversion radicale. Un autre point sur Paul, un homme passionné par Christ et son Église. Et on l'a dit, sur le chemin de Damas, Il a tout de suite compris le lien entre Christ et son Église, et comme il est passionné par le Christ, il devient passionné par le Christ, il devient aussi passionné par son Église. Et c'est ce qui fait la différence chez Paul. Pourquoi est-ce lui qui a implanté le plus d'églises? Pourquoi est-ce lui qui a écrit le plus de pages dans le Nouveau Testament? Pourquoi on s'interroge pour savoir si ce n'est pas lui le véritable fondateur du christianisme? Est-ce qu'il était plus intelligent que les autres? Non, Luc, qui était médecin, était aussi intelligent, il avait une bonne formation. Avait-il une personnalité charismatique, Paul? Non, pas vraiment. Les Corinthiens se moquent de lui, ils disent que par écrit, il est sévère, mais quand on le voit, il est faible, il n'a pas d'autorité, il n'a pas vraiment de personnalité charismatique. Non, ce qui fait la différence, c'est sa passion pour l'Église. Non pas pour les bâtiments d'une Église, même si c'est important, on va dire, mais pour les habitants de cette maison, pour les gens de cette Église. Et il dit à l'Église de Corinthe, qui n'est pourtant pas une Église facile, que son cœur brûle pour eux. Il porte, dit-il aussi, le souci de toutes les églises. Et à l'église de Colosse, il parle de sa passion pour eux en deux formules. D'abord, il est prêt à se battre pour l'église. Et dans le texte, je le lis, « Je tiens à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je combats ou que je livre pour vous, littéralement que je combats pour vous. » Et le mot en grec a donné le mot agonizo, a donné le mot agonie. Si vous saviez quelle agonie j'agonise pour vous, dit-il aux Colossiens, à l'église de Colosse. Alors, ce n'est pas le combat armé, non plus la lutte, mais c'est plutôt le combat sur la piste d'athlétisme. Il y avait des courses déjà, il y avait les Jeux Olympiques et des courses d'athlétisme, il y avait du sport, et Paul utilise souvent cette image de la piste d'athlétisme, il aimait bien l'athlétisme, et là où on combat un petit peu contre soi-même, où on combat contre les forces de résistance, où on combat contre les forces de frottement, où on combat contre la pesanteur qui nous fixe sur le tartan, on se bat contre soi-même et contre la résistance, il est prêt à se démener pour l'Église, parce qu'il a la passion de Christ et de son Église. Et puis dans Colossiens aussi, une deuxième forme, un deuxième aspect de cette passion, c'est qu'il est prêt à souffrir pour l'Église. Je vous lis le texte. « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. » Il est prêt à souffrir et il continue en disant « Je complète, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. » Non pas qu'il veut remplacer, faire son œuvre pour le salut par ses souffrances, mais il veut souffrir à son tour pour l'Église, comme l'a fait Jésus-Christ, qui s'est donné pour l'Église. Alors, est-ce que Paul était un masochiste prêt à souffrir pour l'Église? Est-ce que je suis un masochiste? Est-ce que je suis prêt à souffrir? Moi, je suis un baby-boomer, là, né dans les 30 glorieuses, où on ne souffrait pas beaucoup. Et on n'a pas envie de souffrir, et vous n'avez pas envie de souffrir. Mais malgré tout, je pense que dans la vie chrétienne, il y a cette petite part de souffrance qu'il faut pouvoir endosser. Être prêt à se battre, être prêt à souffrir un peu, beaucoup parfois, pour l'Église, pour sa foi. Jésus a en tout cas besoin de gens passionnés comme Paul pour son Église. Et après le Covid et ses dégâts, Dieu a besoin de gens passionnés comme lui. Le serons-nous? Et puis troisième point sur Paul, il était un père spirituel pour Timothée. Au verset 2, il dit de Timothée son enfant. Il dira la même chose pour Tite. Paul n'est pas juste un théologien qui écrit par exemple l'Épître aux Romains et la justification par la foi que lira Luther, mais il s'attache aussi à des individus qui, il les suit dans la foi, il leur fait confiance, il leur met le pied à l'étrier, et c'est ce qu'il a fait en passant à Lystre dans Acte 16 et en voyant Timothée là. Alors, est-ce nécessaire dans la vie chrétienne d'avoir un père spirituel? Alors peut-être pas obligatoirement un père spirituel, mais pourquoi pas des grands frères ou des grandes sœurs spirituelles, ou en tout cas des personnes de référence, des personnes dans la foi, des personnes sur lesquelles on peut compter en cas de besoin. Moi, j'ai eu des pères spirituels, mais par moment, par période de ma vie, et ils m'ont bien aidé. Mais certains sont décédés, hein, je pense à l'oncle de John, à George Winston, et ça me manque la présence de ces personnes de référence. N'oublions pas de nous entourer de pères ou de grands frères ou de grandes sœurs spirituelles ou de mères spirituelles. Et puis, Timothée, en trois points, rapidement. Une conversion en douceur. La mère... Alors, je l'ai là, le texte. Je me rappelle... Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Loïs, et quand il dit grand-mère, il emploie un mot particulier, un mot familier, granny ou mamie, mamie Loïs. Eunice veut dire victoire, et certains parlent d'une formation biblique dès sa jeunesse, mais il a dû faire son propre chemin, Timothée, en matière de foi, mais... Il semble que ça soit fait en douceur, avec sa mère et sa grand-mère. Et à un moment, il a donné sa vie au Christ. On n'a pas tous des chemins de Damas où on est renversé, peut-être de son cheval ou simplement par terre, comme Paul, mais peut-être en suivant juste l'exemple d'autres qui nous mènent à la foi et qui nous mènent à une foi sincère, littéralement sans hypocrisie, une foi authentique. Mais une conversion en douceur, comme peut-être quelques-uns parmi nous ce matin. Et puis pour Timothée, un homme de confiance, un serviteur fidèle et constant, à qui on donne des missions délicates. Il est envoyé à Thessalonique, il est envoyé à Corinthe, dans un contexte difficile. Il sera aussi à Rome avec Paul lors du premier emprisonnement, et à la fin de l'épître, la deuxième lettre de Paul à Timothée, Paul lui demande d'aller chercher un manteau à Troas et de lui ramener à Rome. Ça fait un long chemin. Un homme de confiance, Timothée est quelqu'un de loyal, pas de coup fourré, pas de poignard dans le dos, non, il est là dans les coups durs. Il n'abandonne pas, il est fidèle dans ses engagements, c'est un homme de confiance, Timothée. Et puis, Timothée, c'est un homme à la personnalité un peu timide et qui a besoin d'être encouragé. Et donc, c'est un des objectifs de cette lettre, d'encourager Timothée. Alors, timidité peut-être liée à une situation particulière, il est jeune responsable de l'église à Éphèse, ou bien à un penchant naturel pour la timidité, ou peut-être les deux. Donc un peu timide, Timothée, et Paul va l'encourager déjà dans sa première lettre quand il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es jeune, c'est vrai, mais ne sois pas timide d'être jeune. Et Timothée nous montre qu'on peut être chrétien et timide. Même Billy Graham pouvait être timide. Alors Billy Graham, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est un grand prédicateur évangéliste américain qui a prêché l'évangile un petit peu partout dans le monde. Et à l'époque, on aimait remplir les stades. Il était dans le stade du Heysel à Bruxelles en 74 ou en 74. Et il était à Paris, à Bercy, dans les années 80, je crois. Et Billy Graham lui-même a dit « Je peux prêcher l'évangile devant des stades entiers, mais quand je suis chez le coiffeur, j'y arrive pas. » Alors peut-être c'était des coiffeurs ou les barbiers avec la lame de rasoir qui vous passe dans le cou. Et moi j'ai du mal avec mon coiffeur aussi, je vous en ai déjà parlé. Et pourtant, ce coiffeur, il n'arrête pas de me parler de Dieu. C'est lui qui commence la conversation. Il a vu tous les films sur Jésus, même The Chosen dont tu me parlais, Myriam, et même les mauvais films sur Jésus, parce qu'il y en a aussi, et qui sont très caricaturaux. Et il me parlait la dernière fois de ce film Jésus l'enquête, trop caricatural, la conversion trop rapide, etc. Et moi, j'arrive pas à enchaîner. Enfin, je lui dis. Enfin, après, il m'a dit quand même que c'était un intérêt purement intellectuel, purement culturel. Ça m'a un peu refroidi. Mais quand même, je suis timide moi aussi, comme Billy Graham, avec mon coiffeur. Je termine la présentation de ces deux personnes, Paul à Timothée. Et il y a un troisième personnage dans cette histoire. Et ce troisième personnage, c'est toi. Lecteur ou auditeur de cette lettre 2000 ans après, un personnage avec une personnalité voulue par Dieu, passionné ou timide, introverti ou extraverti, mais à qui Dieu veut adresser un message. Et il y a une quatrième personnage dans cette histoire, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a inspiré Paul pour écrire cette lettre et qui nous inspire aussi pour la comprendre et se l'approprier. Je vous souhaite une bonne série sur 2 Timothée. Amen.